Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Ton Livre sur HDR. Il est 19h et jusqu'à 20h, on est ensemble pour une émission libre, dont le ton est libre, avec ses chroniqueurs et ses invités, son invité. Alors, je ne dis pas tout de suite qui est mon invité. D'abord, le thème de l'émission ce soir, c'est procrastination. Alors, est-ce que vous procrastinez parfois? Parfois, de temps en temps, pas au boulot, mais chez vous, je sais pas, dans votre jardin, dans votre salon, sur votre canapé, devant votre ordinateur. Bref, on va parler un peu de procrastination, c'est le thème que nous avons choisi pour cette émission. Et pour cela, deux chroniqueurs sont dans le studio, ici avec nous. Émilien, bonjour Émilien.
Salut Rebecca.
Comment vas-tu bien?
Très bien.
T'as bien procrastiné ces derniers temps?
Excuse-moi, j'ai pas entendu.
Tu as bien procrastiné ces derniers temps?
De micro. Ah. Ouais, excuse-moi, le casque, j'entends absolument
la,
rien.
La dame
j'entends
te demande.
En fait, Rebecca te
la
demande.
La dame te demande si tu procrastines bien ces derniers temps.
Oui.
Ouais,
oui,
plutôt bien.
Toujours.
Ok, bon, bah, super. Donc, ensemble, une heure, on procrastine, tout ça, quoi.
Exactement.
Super. À côté de toi, Hélène. Bonsoir, Hélène.
Salut tout le monde.
Hélène, dis-moi que ça va bien parce que tu es sur HDR.
Mais ça va toujours très bien.
Super.
Quand je suis avec vous.
Et toi aussi, procrastination, un sport que tu pratiques régulièrement ou plutôt
spécialiste.
De temps en temps? Spécialiste.
Spécialiste.
D'accord, tu nous donneras deux, trois conseils, les trucs
exactement.
Et astuces pour bien y arriver.
C'est ça. Tout à fait, t'as tout compris.
Parfait. Et puis un troisième chroniqueur.
Je crois qu'on aurait pu remettre à demain l'émission.
C'est vrai, on a hésité.
On l'a remise déjà.
Mais oui, c'est vrai, déjà on l'a remise. Et puis jusqu'à il y a deux minutes, je me demandais si vous n'aviez pas prévu de la remettre et de me laisser seule pour procrastiner avec mon invité. Et un troisième chroniqueur qui n'est pas avec nous en studio, mais qui est toujours là-bas, de l'autre côté de l'eau, à Washington DC, Stéphane Emmanuel, le papa de Ton Libre, qui lui aussi procrastine, je crois, de temps en temps aux États-Unis. Il nous a préparé une chronique, on l'écoutera tout à l'heure. Et puis avec nous, pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la procrastination, parce qu'on ne fait pas que procrastiner dans ton livre ce soir, Paul. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Alors toi, tu viens nous parler d'un projet qui s'appelle l'usine à pâtes.
En effet.
Bonne réponse. Donc l'usine à pâtes, c'est un projet, on va décortiquer tout ça tout au fil de cette émission. On a une heure pour en parler, pour parler d'usine, de pâtes bien fraîches, de pâtes normandes.
Voilà, nous on a procrastiné assez longtemps par rapport à l'usine à pâtes. Alors
ouais.
Là, on est plutôt en train d'essayer de faire l'effort pour sortir de ce moment de procrastination.
De cet état.
D'ailleurs, je tenais à vous féliciter pour avoir choisi un mot qui est assez difficile à prononcer à la radio.
Ouais.
On va voir combien de fois on bute. Parce que quelqu'un va faire un petit tableau et voilà.
Ouais.
En tout cas, on a procrastiné dur et là, on essaye de passer à la fin de cette étape de procrastination.
Ah, on va en parler de tout ça. Et je vous propose dès maintenant de se passer un petit peu de musique parce que je me sens un peu à fond là. J'ai besoin de procrastiner 2-3 minutes. Alors, c'est parti, musique.
Lui offrir un présent afin que sa douce Alice penche à lui en son absence. Devenue assez grande pour la clé fétiche, forcément la porte est maintenant trop petite. Si de ce qu'on souhaite on n'y croit pas dur, que lorsqu'on veut la pensée n'y est plus. Dans les déceptions de ce qu'on a voulu, les cadeaux se prennent des éclaboussures. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais quand il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ce n'est jamais quand il faut. Alice, tantôt grande, tantôt l'inverse, il ne lui a pas suffi d'être à la bonne adresse. Lorsqu'on est prêt la plupart du temps, les axes sont fermés, les portiers charlatans. Être comme il faut dans un sale moment, autant attraper le train galopant. C'est moins difficile d'être triste à plein, une larme dessina ses petites plaintes. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps temps nous cherchons l'ouverture. Ça n'est jamais quand il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais comme il faut. Petit groupe nage, toute une bande d'animaux bavards et des plumes donc allergiques aux cages passionnées. Quand débuta le débat sur la plage, on ne parle pas d'omelette à des oiseaux, ni du plat de son chat au souriceau. Suite au discours, le vide se fit aussitôt. On trouve rarement le mot qu'il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais quand il faut. Avant d'être à la hauteur, soyez sûr, la chance passera faire son numéro. Longtemps nous cherchons l'ouverture, ça n'est jamais quand il faut.
Trouvé dans ton livre avec Oxmo Puccino, accompagné de Ibrahim Malouf à la trompette, jamais, quand il faut. Eh bien, nous y voilà, l'ouverture est faite. L'usine à pâtes, fabrication artisanale et autonome de pâtes sèches. Paul, où est née cette drôle d'idée? Pourquoi aller fabriquer des pâtes artisanales et autonomes? C'est quoi une pâte autonome? Plein de questions. L'idée, d'où vient-elle?
En fait, ça fait pas mal d'années qu'avec plusieurs amis, on essaie de se poser la question de savoir comment on pourrait être un peu autonome. Ici, ça veut dire comment, par exemple, on pourrait produire ce qu'on mange. Sûrement, il y a eu pas mal de tentatives. On a tenu des jardins potagers un peu collectivement. On a tous souvent encore des petits bouts de jardin là où on habite. Il y a des amis qui sont installés dans une ferme, qui est la ferme de Lozeray. Je ne sais pas si vous connaissez, parfois appelée la ferme des 400 goûts. Et en gros, il y en avait plein parmi nous qui n'avaient pas tant la main verte que ça. Et on aime bien les pâtes et ça doit constituer ce qu'on mange principalement. Et donc, on s'est dit que si on voulait faire un pas un peu plus avancé sur la question d'autonomie alimentaire, il fallait qu'on se mette à produire des pâtes. Et l'avantage, déjà, ça nous plaisait, on trouvait ça assez marrant. Et il y a une vidéo qui montre une machine à pâtes en action. Il y a un truc un peu magique là, de voir ces objets qu'on connaît tous intégralement, parce qu'en général, on les trouve quand on ouvre une boîte en carton, de voir cette machine cracher ses fusilis, ses peinés, etc. Et donc là, il y a un truc fascinant et magique. Et puis l'avantage, c'est que ça se conserve éternellement.
Oui.
Donc éternellement, réellement, c'est-à-dire que si c'est pas mis en vente, la durée de consommation, il y en a pas, quoi.
D'accord.
Donc je sais pas si vous avez vu Mad Max, mais en gros, si vous voyez Mad Max, vous comprenez pourquoi avoir une usine à pâtes.
Le dernier Mad Max,
ouais.
Je vais le voir ce week-end.
Vous comprendrez pourquoi avoir une usine à pâtes, ça peut déchirer, et puis pourquoi vous aurez envie d'être pote avec des gens qui ont une usine à pâtes quand tout s'effondrera.
D'accord. Paul, je te propose qu'on écoute une vidéo Parce que pour l'usine à pâte, il y a un appel au financement participatif sur Ulule. Je vous donnerai l'adresse, toutes les infos tout au long de l'émission. Et vous avez réalisé une vidéo de 2 minutes pour présenter le projet. On l'écoute ?
On y va.
On y va. À chaque fois, j'ai peur. Est-ce que ça va marcher ou pas? Le son va partir.
Salut les kids! Avec l'effondrement de la civilisation occidentale et les guerres apocalyptiques qui s'annoncent, il devient urgent de produire nous-mêmes ce que nous mangeons. Alors nous, on a décidé de construire une usine à pâtes pour nourrir les amis, les restos associatifs, les cantines de lutte et les aves en tout genre. Ça, c'est le bois pour faire une charpente qui claque. Là, ça renvoie pour une dalle de 3 mètres cubes. On n'attend plus que vous pour transformer ces 2 tonnes de farine filées gracieusement par des camarades paysans. Tout au fond là-bas, c'est notre local. Il est entièrement climatisé. Mais le problème, c'est qu'on l'a pas encore raccordé à l'eau. Là, c'est nos 2 tonnes de pâtes. Et notre projet, croyez-nous, c'est pas du bidon. Et on y croit tellement qu'on a déjà prévu les verres pour fêter l'inauguration. Et on a stocké 35 000 canettes, avec ou sans alcool. Et puis comme on va livrer partout dans le monde, on a prévu une dizaine de voitures. Il y a trop de crash d'avions. Bon, je vous laisse. Et on compte sur vous pour faire avancer l'autonomie alimentaire.
Comme nous venons de le voir, notre projet de petite usine à pâtes artisanale est bien avancé. Nous disposons déjà d'un local de 35 mètres carrés, que vous allez apercevoir sur les photos que Benny et la technique va insérer, ainsi que de nombreux matériaux. Nous avons aussi un petit pécule pour lancer les travaux prévus en juin. Mais là où nous avons besoin de vous, c'est notamment pour financer l'achat de cette magnifique machine à pâtes Monferrina P6, d'une production estimée à 15 kg heure, et pour le séchoir professionnel d'une capacité de 100 kg. Vous l'aurez compris, l'usine à pâtes a besoin de...
Alors voilà, on a passé un extrait, un bon extrait de cette vidéo. Donc voilà, appel au soutien. Alors l'adresse est ulule.com/l'usine à pâtes en un seul mot. Et vous tapez sur votre moteur de recherche préféré l'usine à pâtes et vous tomberez tout de suite sur ce lien. Alors aujourd'hui, vous êtes arrivé quasiment à 50% du financement. Donc a priori, il y a plutôt une mobilisation citoyenne qui se fait autour de votre projet.
Amical, en tout cas, oui. Alors, on a dû lancer effectivement le projet il y a 10 jours. Non, je voulais juste dire un truc. Oui. À la radio, on loupe un peu l'effet comique de la vidéo.
Alors, il faut aller la regarder sur YouTube ou voilà, sur Ulule.
Il faut aller la regarder parce que, en fait, c'est un détournement d'un détournement qui existe déjà. Et en fait, il faut s'imaginer qu'il y a un type qui est en train de présenter très très sérieusement. On imagine que c'est une publicité interne
des années 60, hein, quelque chose comme ça, 70.
Et déjà, le premier détournement, c'était ceci est un message à caractère informatif. Voilà. Et le type est dans un délire, il veut installer un abri nucléaire dans son jardin, bon voilà, et donc il y a plein d'éléments matériels qui sont montrés et voilà, donc c'est plus drôle avec l'image. Effectivement, ça c'était le support dont on servait pour Ulule. Alors vu qu'on parlait de procrastination, le projet il dure quand même depuis pas mal de temps, mm-hmm. parce que au départ c'était presque une idée qui avait l'air une bonne idée, mais presque un fantasme, quoi. Mmh. Puis après, l'idée a fait son chemin, on se l'est un peu approprié à plusieurs, et puis...
Alors l'idée fantasme, c'était quand? C'était déjà il y a plusieurs années?
Il y a 4-5 ans. D'accord. 4-5 ans, puis après, les choses ont mûri, elles ont commencé à prendre de la place, et on s'est rendu compte que c'était à peu près faisable, et on s'est un peu renseigné sur ce que ça voulait dire techniquement, et notamment sur la vidéo où on voit la machine dont je vous parlais, c'est quand même une petite machine. C'est vrai que ça s'appelle l'usine à pâtes, mais c'est pas une usine au sens industriel. Ouais, ouais. Il n'y aura évidemment pas de ligne de production. Il n'y aura pas de chef et pas de salariés. C'est plutôt une fabrique de pâtes, quoi. Et en termes de matériel, ce n'est pas énorme. Et ce qui nous intéressait aussi, c'est que ce serait plutôt de la proto-industrie que de la vraie industrie. Donc, on peut s'approprier un peu tous les moyens mécaniques, on va dire. Et la machine, elle est intégralement mécanique. Il y a pas, enfin, voilà, tous les moyens avec un moteur électrique, tous les moyens matériels pour produire ça. Et petit à petit, on a avancé. On s'est renseigné sur les machines. On a réussi à trouver le local en question qu'on nous prête. Donc là, on n'aura pas de frais par rapport à ça. Et puis, on a réussi, nous, à récolter un petit pécule autour de nous. Mm-hmm. Mais on estimait qu'il nous fallait à peu près 12 000 euros. Donc, on a lancé ça il y a une dizaine de jours. Et effectivement, ça a vraiment très, très bien démarré.
Oui, et puis, en plus, je crois que sur les plateformes de financement participatif, il y a un peu comme ça des statistiques. Il faut que dans les 10-12 premiers jours, si on dépasse les 30%, ça veut dire qu'a priori, ça va le faire. Donc là, 50%... en 10 jours.
Ouais, il reste 30 jours, donc ça va le faire.
Chers auditeurs, auditrices, vous pouvez vous mobiliser pour soutenir l'usine à pâtes.
Alors donc là, on a d'abord un peu tanné la famille et les amis, donc on estime qu'effectivement, ils ont dû participer. Puis là, on arrive un peu au plateau. On pense qu'on a épuisé un peu les premiers cercles et tout ça, donc il faut qu'on porte le truc un peu plus largement, quoi.
Ouais. Alors, ce collectif, ces amis, ce cercle, voilà, qui porte le projet, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes une association? Est-ce que vous envisagez de devenir peut-être une société coopérative, je ne sais quoi? Comment vous allez structurer votre démarche?
La forme administrative, ça va devenir une association.
D'accord.
Mais effectivement, la bande d'amis, le groupe qui est autour de ça. Alors, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont aussi intimement liés au restaurant La Conjuration des Fourneaux. Mm-hmm. Le restaurant La Conjuration des Fourneaux, c'est un restaurant où on sert des plats du jour à 5 euros au 149 rue Saint-Hilaire. Mm-hmm. Et c'est un peu pareil, c'est un peu une aventure collective. Dans laquelle on s'était lancé il y a 4 ans. Et voilà, une partie des gens qui se lancent dans l'usine à pâtes, ils avaient déjà cette expérience-là où on tient un projet collectivement qui n'est pas d'abord tourné vers la question de l'argent. C'est une association là-bas.
Ouais.
Donc nous, on va effectivement monter une structure associative, mais on n'a pas pour but immédiat et principal de vendre des pâtes et de faire de l'argent en vendant ces pâtes. Il y aura une partie qui sera dédiée à la vente. Mais on est aussi en contact avec d'autres personnes. Par exemple, une partie du blé dont on va se servir pour... Donc finalement... On appelle ça l'intégration verticale, je crois, des fois en économie.
Wow.
Ça veut dire que.
Faut pas me dire des trucs comme ça.
L'un des délires possibles, c'est que nos pâtes, elles proviendront d'une semoule. Alors, je peux faire un point technique, c'est qu'en fait, normalement, enfin, celles qu'on achète, enfin, les bonnes pâtes, en gros, les pâtes italiennes, elles sont faites avec du blé dur, pas du blé tendre. Et en vérité, c'est pas vraiment de la farine, c'est de la semoule, la semoule de blé dur. Et il se peut, d'ailleurs, j'aurais pu en amener, mais là, on en a déjà quelques-unes. Enfin, pas il se peut, la majeure partie de nos pâtes, elles proviendront d'une semoule qu'on aura moulue nous-mêmes, qu'on aura triée nous-mêmes et qu'on aura récoltée nous-mêmes et qu'on aura semée nous-mêmes. Ça veut dire que, voilà, là, on est.
Du bout en bout de la chaîne.
Du bout en bout de la chaîne.
Le projet.
C'est ça l'intégration verticale, je crois. Et une partie de ces terres, elles sont sur la ZAD. Mm-hmm. C'est-à-dire que après.
ZAD, faut expliquer.
Alors la ZAD, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ouais. C'est là où il y a un projet d'aéroport qui a été lancé il y a très très longtemps et qui a fait face à une farouche opposition.
Oui.
Pendant très très longtemps, la temporalité principale, c'était plutôt une temporalité qui était liée à l'occupation et à la résistance vis-à-vis des forces policières. Et puis là, en gros, ce qui rendait même difficile, parce qu'ils tenaient tous les carrefours, donc c'était difficile de circuler. Là, en gros, les policiers ont disparu. Il y a plein de choses qui sont en attente par rapport à ça. Et les gens qui sont là-bas, ils s'installent durablement. Ils font des projets absolument hallucinants. Y a des gens qui ont récupéré des vaches et des trieuses, qui font du beurre, de la crème, du fromage.
Et donc du blé.
Alors il y a des gens par ailleurs qui ont fait un truc qui s'appelle Semtazad, qui ont planté 14 hectares de blé. Et notamment, il y a 2 hectares de blé dur. Donc si vous suivez, vous comprenez que les 2 hectares de blé dur, c'est pour
l'usine.
Voilà. Y a des gens qui coupent du bois et qui veulent faire du bois d'œuvre pour construire des choses un peu plus durables. Donc c'est une espèce de commune en sécession un peu là-bas. Il n'y a pas de police les gens s'organisent, voilà, c'est ça un peu la question d'autonomie matérielle, les gens s'organisent eux-mêmes sur place et nous on a quand même passé pas mal de temps là-bas parce que c'était une lutte
Justement le fait que ce blé aujourd'hui soit cultivé sur la ZAD, est-ce que ça met pas en danger à moyen long terme la pérennité du projet, parce que justement une ZAD c'est une zone d'occupation et donc si les autorités décident de remettre la main complètement sur ces lieux, quels que soient les projets qui soient installés, que fera notre belle machine à pâtes?
Alors déjà, les autorités, je leur souhaite bien du courage, parce que la dernière fois qu'ils ont fait ça, il y a 40 000 personnes qui sont revenues pour réinstaller ce qu'on appelle la manif des réoccupations.
Ouais.
Mais sinon, c'est une bonne question. Et c'est pour ça que je disais, à un moment donné, une partie de notre blé viendrait là-bas, mais on a aussi un ami agriculteur qui fait du blé dur. Et notre moulin, il est quand même à la ZAD, et donc on peut aussi le transformer à la ZAD. Et on cherche aussi des plans pour pouvoir acheter de la semoule déjà transformée. C'est-à-dire
qu'on sera
pas intégralement indépendant, mais disons que dans le projet, réussir à tenir ça tous ensemble.
Sur la diversité des ressources pour permettre une pérennité est déjà bien intégrée.
Ouais, on va faire ça. Par contre, juste vu que j'avais commencé à dire ça, malgré tout, on vendra une part de la production.
Ouais. Alors sur les débouchés des pâtes, on y reviendra tout à l'heure, parce que je comprenne le temps d'en parler, parce que c'est vraiment intéressant dans le projet, c'est assez atypique. Émilien, je ne sais pas si tu écoutes attentivement ou si tu procrastines sous ton casque devant ton micro.
Pour une fois, j'écoute attentivement.
Donc le terme procrastination, forcément, t'a inspiré. Je ne sais pas s'il t'a inspiré il y a 2 heures, il y a 10 jours... hier.
Je te mentirais si je te disais le plus tôt possible.
De toute façon, ça serait une faute de goût, vu le thème.
Oui, en fait, moi, tout d'abord, je voulais te dire que le sujet, je suis vraiment ravi du sujet. Enfin, pas parce que c'est moi qui l'ai proposé
oui,
la fois dernière.
Voilà, je n'osais pas le dire, parce que ta modestie en aurait souffert.
C'est pas le cas. Comme je disais, je l'aime parce que, pour une fois, je me sens vraiment compétent pour en parler. En fait, d'habitude, comme je le disais tout à l'heure, pour éviter un peu le sujet, je fais un reportage. Comme ça me permet d'autres de répondre à ma place, du coup, ça m'évite de trop réfléchir. Cette fois, procrastination, je me suis dit, non, ne fuis pas, pour une fois, confronte-toi à la réalité, fais face. Parle de ce fléau qui te touche, ça te fera du bien. Et puis d'autres auditeurs se sentiront un peu moins seuls. Donc j'ai réussi à écrire un peu. J'ai bien cru que j'y arriverais pas. J'ai dû faire face à des situations d'urgence extrême qui m'ont détourné de mon but. À plusieurs reprises, au moment de m'y mettre, il était l'heure d'aller à la piscine. Et puis une fois lancé, j'ai dû faire face à une panne de stylo.
Ah.
Bon, finalement, j'ai réussi à écrire, mais le plus dur, finalement, c'était d'écrire le premier mot. Alors voilà, pour commencer, je souhaitais dire que je pense qu'on ne naît pas procrastinateur, on le devient.
Hein, parce que fait, dans la vie, voilà, il n'y a pas de destin, quoi. On devient ce que l'on choisit de devenir.
Exactement. Bon, pour moi, c'est un peu une histoire familiale. Ma grand-mère n'a jamais cessé de me répéter « il faut toujours repousser au lendemain ce qu'un autre peut faire le jour même ». Alors donc, je me suis emparé de cet adage et puis j'en ai un peu fait mon hymne, ma philosophie de fille, quoi, finalement. Déjà au collège... Ce que ma mère prenait pour du perfectionnisme, mes profs, eux, prenaient ça pour du je m'en foutisme. Et puis, au fil des années, on met un mot sur ce qui vous ronge, procrastination. Déjà, on a appris un mot de 5 syllabes, on est content. Et puis, mettre un mot, souvent, ça permet de mieux vivre avec ce qu'on souffre. Même si j'ai appris que la procrastination ne relève pas vraiment d'une maladie psychique. Je ne sais pas si Hélène nous en parlera après, on verra bien. Du coup, où j'en suis ?
Alors ça, procrastiner pendant une chronique et se perdre, c'est beau.
Oui, bon. Bon, au bout d'un moment, on se rend compte que certes, bon, on repousse beaucoup de choses à plus tard, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça la procrastination. On repousse que les tâches qui posent problème. Pour lesquelles il va falloir réfléchir un petit peu, ou dans celles dans lesquelles on se sent un peu en difficulté. On va passer un soin extrême, un soin infini à faire autre chose, ou bien une tonne de choses, et d'ailleurs, plutôt que cette tâche-là. Voilà pourquoi la procrastination passe parfois pour quelqu'un de perfectionniste ou hyperactif, voire les deux. En réalité, c'est complètement faux, c'est quelqu'un qui se ment juste à lui-même. Ce n'est pas quelqu'un en fait, qui se trouve une excuse pour ne rien faire, c'est juste quelqu'un qui se trouve autre chose à faire de plus urgent. Même si, bon, je dois l'avouer, la fatigue est un motif que j'avance souvent pour ne pas travailler. Cependant, après deux journées à ne pas dormir, il faut bien se résoudre à se lever. Et là, quoi faire prévaloir plutôt que le travail ? Alors, en général, bon, ça se passe comme ça, je vous décris un peu la scène. Je suis assis devant mon ordinateur, et puis se passe ce que certains appelleraient tergiversation ou perte de temps. Moi, ce que je nomme préparation mentale ou bien mise en condition. C'est-à-dire que je me lève et je me rassois un certain nombre de fois. Bon, allez, un petit café avant de commencer. Je me lève, je me rassois. Allez, bon, je mange un petit truc avant de m'y mettre. Je me lève, je me rassois. Bon, je vais aux toilettes. Je me lève, je me relève à nouveau. Bon, il faut que je range ce bureau. Vraiment, je peux pas travailler dans ce bordel, c'est pas possible. Bon, est-ce que je fais un petit jeu avant de m'y mettre ? Non, je vais plutôt aller jardiner. Et puis ensuite, je retravaillerai ensuite. Voilà, ça peut durer des heures comme ça. Et puis, ça dépend des jours. Et puis un jour, on se rend compte en fait que la procrastination, c'est un formidable moteur parce que l'air de rien, quand on a taillé 200 mètres de haie, qu'on en a aussi profité pour réparer les volets, repeindre le portail, bref, on a fait une quantité de choses assez insoupçonnées. Le seul problème, c'est que la tâche vraiment importante, elle, c'est qu'elle est vraiment celle qui est vraiment urgente et impérative, et ben, toujours en suspens. Alors l'astuce que j'ai trouvée, la parade, en quelque sorte, c'est là que la capacité d'auto-persuasion est utile, c'est que, en fait, puisque l'on sait qu'on va perpétuellement échapper à la tâche qui est en haut de la liste, le doux, c'est de choisir la bonne tâche, le bon projet pour le haut de la liste. Mmh. Donc une chose vraiment urgente, vraiment impérative, mais en fait, qu'il ne l'est pas vraiment, en réalité, qu'il n'est pas vraiment. Alors il faut juste qu'il y ait une condition, c'est qu'elle ait une échéance claire, par exemple, sinon ça ne marche pas. En fait, une chronique radio, par exemple, ça marche très très bien. Voilà. Donc c'est prévu un mois à l'avance, et puis on peut la repousser jusqu'au jeudi même, 18h ou presque. Le réel avantage de la procrastination, c'est qu'en fait, en tout cas, pour finir, c'est qu'à force de toujours repousser au lendemain, on finit par vraiment vivre l'instant présent.
Ah, voilà. Waouh, quelle conclusion.
Ouais.
J'applaudis dès demain, merci Emilien. Allez, on se réécoute un petit peu de musique. Je ne vais pas passer tout de suite le morceau choisi par notre invité, on le repassera un peu plus tard dans l'émission. Là, c'est ma sélection. Ouais.
They can eat my dick, that's word of pimp. Word of pimp. Word of pimp. Word of pimp. Hold up. Oh my.
You are now listening to Run the Jewels.
Fuck the law, they can eat my dick, that's word of pimp. I don't fuck with or talk like all these fucking imps. Stop violent, give a fuck if you deny it, kids. You can all run naked backwards to a field of dicks. Fuck the world, don't ask me for shit, that's word of big. I dreamt we own the world, but I've woken up and it don't exist. Soak it in, I need no assist, can't slap my wrist, I don't owe you shit. Trust me, I'm a doctor, do operate, I'm a post-war razor bitch.
Tiptoe on the track like a ballerina, ski mask and a Pontiac Catalina. It's obese female opera singer, you can run the jewels or lose your fingers. Me and LP got time to kill, got folks to kill, on overkill. He hanging out the window, I hold the wheels. One black, one white, we shoot to kill. That fuck boy life about to be repealed. That fuck boy shit about to be repaired. Fuck boy G-Hard, kill infidel. Low whack bar, boom from Mike and L.
Life is hell, death's a bitch. And these food bar rulers getting rich. I cop a zip, it opens up. I smoke it up, go home and fuck. Tell I be girl when they roam. I get a face, please pay with dome. My business card says you're in luck. I do two things, I rap and fuck.
I fucking rap, I toke scrap. I smoke the kush, I beat the puss. I read the books, did the math. Don't need a preacher preaching on my behalf. No teacher can't teach my arrogant ass. I'm blowing on creepy by reading the scriptures that's written by Egyptians and sipping on whiskey. Hey baby, you with me?
Oh my. Run this spot like a Chinese sweatshop. Don't stop, work until chest pop. Cardiac arrested, I'm so invested. I'm self-invented, that's no illusion. There's no confusion, you see the future. You fear the future, I've seen the truth. And I'm so deluded, I've been a better bad guy than I've been better than bad. Been a bit of bully talk, beating on my chest. In fact, I half stack from a rat. I've been around the block, babe, I know a few facts. Maniac, Raniac, run, go tell him that. A.T. Alien, end my telling back.
Can't believe wrong, I'm savage. Show up your class, what's happening? 2-yard bullet with a fully automatic. Heart full of pain and a head full of habit. Everybody steps on the key and I'm dead and I'm happy. Happy, leave a name, mom, on the stage where it happened. Who's gonna find my baby a cat? Fuck that bitch in the past.
Mega blast, I'm mega lit. On Highway 6 and I'm not strapped in. I don't crash, bitch, I just skip. You got the cash, I'll make the trip. I make the trip, you better pay. Done worse, but less, don't make my day. I'm not from Earth, from far away. I bust through chests like baby Quake.
Running the jewels of the game. Whipping the mixes like chickens of cane. Spitting the sickness again. Parents is living again. Kids is just fucking insane. Pointing that pistol like this with a chain. Rapping the simple like they in a game. Delivery dope like a dope with a dope boy. No full of coke for a junkie of fiend. Fiend, 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 fiend.
C'est pas du bon son, ça? C'est Run the Jewels, Oh My Darling. C'est trop bien, j'adore. on parlait de procrastination avec Emilien. On ne naît pas procrastineur, on le devient. Alors ça, je la garde.
Tu la conserves?
Ah ouais, je la conserve.
Est-ce que tu vas faire une chronique bien à la fin de l'année où tu vas mettre des extraits de chaque chronique comme tu l'avais fait, tu te
rappelles? Waouh, le best-of.
Ouais, ça serait
une chronique
fort,
en direct, ce serait pas mal. Tu captes des petits extraits de chronique.
Bah oui, voilà, pourquoi pas. Hein. Soyons fous. Quand j'aurai fini de procrastiner. Hein. Voilà, c'est ça. Je me mets ça. En fait, c'est ça. Si j'ai bien compris, vu que je ne le mets pas en haut de ma liste, je le mets en troisième position.
Si, justement,
comme
en haut de la liste.
Il y a un peu de chance pour
les
que...
choses un petit peu inaccessibles en haut de la liste.
Je vous propose qu'on aille voir de l'autre côté de l'eau, du côté de Washington, ce que pense notre cher ami Stéphane Emmanuel de la procrastination. Je suis sûre que ça l'a aussi, lui, beaucoup inspiré.
Les difficultés que ma santé, mon indécision, ma procrastination, comme disait Saint-Loup, m'étaient à réaliser n'importe quoi, m'avaient fait remettre de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, l'éclaircissement de certains soupçons comme l'accomplissement de certains désirs. À la recherche du temps perdu, Marcel Proust. La procrastination n'est pas seulement cette faculté de remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Ce serait trop facilement réducteur. Or, je crois qu'il s'agit de quelque chose de plus sérieux, de plus profond. Je reviens dans un instant au cœur du sujet, car Comme d'habitude, je vais commencer par observer la chose avant de m'y frotter. Par son étymologie latine, pro en avant et crastinus du lendemain, nous parlons certes là d'une tendance systématique à reporter à plus tard des actions sans qu'elles soient forcément limitées à un domaine précis de la vie quotidienne qui ne procure pas de satisfaction immédiate. Nous touchons alors du doigt la notion de perfectionnisme dont la définition philosophique sera soit une éthique conséquentialiste ou téléologique, soit une dimension de la vie morale au sens esthétique ou intellectuel, et dont la définition psychologique exprimera un comportement visant à penser que la perfection peut et doit être atteinte. Nous pourrions aisément digresser, encore que, vers une tentative de définition de la perfection. Mais gardons-nous-en bien, pour l'instant, notre propos devant tenir dans une simple chronique. Ainsi, les causes psychologiques de la procrastination sont-elles toujours sujettes à débat? Par étude clinique, il y aurait une connexion avec l'anxiété et une faible estime de soi, ce qui nous renvoie à un sujet sur lequel mes yeux ont été ouverts récemment, le diagnostic de la douance, autrement connu sous le sigle HPI, haut potentiel intellectuel. Ce serait toutefois un raccourci un peu simple de considérer qu'un comportement procrastinatoire constant serait une preuve d'intelligence. Encore que je me rallie sans réserve ni hésitation au cri de « vive les idées simples et les gens compliqués ». Je serais naturellement tenté d'ouvrir là une parenthèse encore sur ce sujet, mais je crains de ne pas pouvoir la fermer pour l'heure. Je me contente donc de lancer ma ligne, que nous suivrons plus tard pour voir combien bonne aura été la pêche. Je fais néanmoins, et d'ores et déjà, cette première analyse qui tente à dire que la procrastination me semble liée à la crainte d'être rassasié, donc de l'achèvement. On peut y voir une crainte de la mort, à différencier de la crainte de mourir, de l'instant de la mort, ce qui est un tout autre sujet, quoique corollaire et sans doute davantage craint encore. Et c'est bien là tout le cœur du sujet, car rappelons-nous qu'il n'y a qu'une seule façon d'échapper à la mort en étant déjà mort. J'illustrerai cela à la fin de cette chronique, peut-être, si j'ai le temps. D'un autre côté, par étude méta-analytique, l'anxiété et le perfectionnisme n'ont aucune connexion, ou au mieux une connexion extrêmement faible, finalement, avec la procrastination. À la place, la procrastination est fortement connectée avec un manque de confiance en soi, l'ennui et l'apathie. La plus forte connexion, cependant, avec la procrastination sera l'impulsivité. D'après les expériences de Walter Mischel, psychologue à Stanford University, dans les années 60, le phénomène est essentiellement dû à un manque d'apprentissage de la maîtrise de soi, de ses désirs. Selon Mischel et quelques travaux menés par d'autres universitaires à sa suite, on peut apprendre cela vite et bien, surtout pour les enfants quand les parents sont partie prenante à cet apprentissage. Notons que notre émission aurait pu être diffusée le 25 mars, date de la journée mondiale de la procrastination. Ce qui m'amène à rebondir sur un sujet secondaire, oui, encore, je sais. L'activité des personnes qui mettent en place des journées mondiales de quoi que ce soit, qui ne semble pas d'une importance capitale dans l'évolution des affaires du monde, ces personnes qui semblent être tout sauf des procrastinateurs, mais au contraire de véritables ambassadeurs de la perte de temps. La procrastination nous permet parfois de faire de belles découvertes et de belles rencontres, car elle procède de la philosophie épicurienne. Nous pouvons, entre guillemets, perdre notre temps, expression ô combien mal choisie, là, à dévorer des livres, des films, des sons, à surfer sur la toile aussi, beaucoup, Sébastien Bailly, ami et confrère rouennais qui nous écoute certainement, je te salue, en quête d'exploration et y découvrir des terres qui nous étaient jusqu'alors inconnues. Nous dessinons ainsi notre propre carte du monde. Nous projetons ainsi nos visions à la surface du fruit de la connaissance qui est, comme chacun ne le sait pas forcément, l'œuf, et pas la pomme ou la figue. Oui, il faut bien que je vous livre une pensée un peu obscure dans cet océan trop plein de rationalisme à mon goût, et non, je ne vous expliquerai pas ici car nous n'en avons guère le temps, ni disons le format idoine pour un véritable échange, et je ne suis guère habité par le désir de professer. Sentant que votre lanterne est prête à vaciller dans la brume, j'en viens par conséquent à ma conclusion. Si je démarrais cette chronique avec Proust, je vous renvoie maintenant à une autre œuvre littéraire, signée par l'écrivain et comédienne Pascal Rose, R-O-Z-E, Un homme sans larmes. Et n'ayant pas le temps de vous en livrer ici un extrait, faut pas déconner, parce que sinon je vais encore me faire taper sur les doigts pour écrire des chroniques trop longues, je soulignerai simplement le début du chapitre 2, intitulé « Philodème de Gadara ». En guise de son, par contre, je vous livre l'excellent Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino, avec la maîtrise de Radio France, à travers le titre « Jamais quand il faut », extrait de l'album « Au pays d'Alice », inspiré du conte bien connu de Lewis Carroll. Que la force de la procrastination soit avec vous et qu'elle vienne alimenter le mix sur Radio HDR. Je vous envoie mes ondes depuis Baltimore, Maryland, en attendant de vous retrouver de nouveau à Washington, D.C. Et comme dirait notre Moïse à nous, père fondateur de notre antenne, notre ami qui nous envoie désormais ses ondes depuis Lagos, ciao bye.
Merci Stéphane Emmanuel pour cette chronique procrastinatrice. J'essaye de rajouter des syllabes quoi. À la fin de l'émission, peut-être qu'on arrivera à 12-13 si on est vraiment doué. Donc oui, le procrastinateur voilà, est un épicurien, c'est un peu ce que disait Émilien tout à l'heure. Le 25 mars, donc c'était la journée mondiale de la procrastination, je ne le savais pas, eh bien je n'hésite pas. Ce soir, je déclare que le 28 mai est la journée mondiale des pâtes autonomes, solidaires et sèches. Donc Paul, magnifique transition pour revenir vers vous. Tout à l'heure, on s'était arrêté sur la question de qu'est-ce que vous allez faire de ces pâtes. Donc une petite partie sans doute à la vente, mais est-ce que lorsque j'irai dans mon supermarché préféré, entouré de ces parkings immenses, en banlieue, enfin en zone périurbaine, en entrée de ville, sous des milliards de pubs, est-ce que je trouverai les pâtes avec le logo, l'usine à pâtes dessus?
Non, ça, il y a vraiment peu de chance.
Ah.
Par contre, si vous voulez absolument acquérir, disons, des pâtes de l'usine à pâtes, vous pourrez en trouver normalement à la conjuration des fourneaux.
D'accord. Alors, voilà. La conjuration des fourneaux, donc tu le disais tout à l'heure, enfin, un coup je dis vous, un coup je dis tu, on va finir avec un tu.
Ouais.
Tu le donnais l'adresse tout à l'heure, rue Saint-Hilaire, et justement, toute l'équipe, vous y serez dans les prochains jours pour présenter le projet, hein, ceux qui veulent le découvrir.
Voilà, ouais. Il y a une soirée le vendredi 5 juin qui commence à 19h à la conjuration des fourneaux, et c'est à la fois une présentation du projet, à la fois un appel à dons, parce que pour l'instant, effectivement, on a épuisé tous nos tantes et nos oncles et nos sœurs et nos potes immédiats, donc voilà, on l'élargit un peu, on va présenter les choses, et puis là, actuellement, déjà, on a eu aussi indépendamment... Et je dirais surtout, à côté de la question de l'argent, ça a été aussi l'occasion d'avoir indépendamment du soutien financier, d'avoir des contacts mm-hmm. avec des gens qui s'organisaient sur Rouen. Et du coup, ce qui surgissait, c'était l'envie de faire des choses ensemble. Et donc, ça nous permettait d'avoir une espèce de visibilité à un moment donné. Et le projet, il plaisait à suffisamment de monde pour qu'il se pose la question de savoir comment nous filer un coup de main et en même temps, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire ensemble. Par exemple, il y a un type qui organise des concerts sur Rouen. Et ben, lui, forcément, dès qu'il organise des concerts, ben, il faut nourrir les musiciens. Oui. Donc, il voulait organiser un concert pour nous apporter un soutien. Et en même temps, du coup, nous, on pourrait fournir des pâtes. Ou voilà. Mmh. Et voilà, ce qui se dessine, c'est un petit peu un espèce de plan d'organisation comme ça, parce que c'était un peu l'idée. Il y a peu de batailles qui se livrent le ventre vide.
Ouais.
Donc, voilà.
Donc c'est pas tant pour aller trouver à la conjuration des fourneaux, et donc l'idée aussi c'est que ce sont des pâtes solidaires. Comment va s'exprimer leur solidarité au-delà des portes de la conjuration des fourneaux?
Solide, est-ce qu'on solide, ça c'est sûr. Non, alors l'idée de l'attention et de l'amour que j'entends dans le mot solidarité, on l'aura. Bah déjà, il y a un premier plan, c'est quand même. Vu qu'il n'y aura pas de distribution, je dirais, à l'aveugle, mm-hmm. par exemple, via la grosse distribution, et vu que notre truc, il n'est pas inscrit dans un réseau, on va dire, économique, donc de valorisation ou quoi que ce soit, il y a peu de chances que les gens qui en trouvent, ça puisse se faire de manière à peu près anonymement. Mm-hmm. Donc l'un des premiers objectifs, c'était de nourrir un peu tous ceux qu'on connaissait déjà et avec qui on était en contact, ouais. que ce soit sur Rouen ou d'autres villes. Mm-hmm. Donc voilà, ça c'était un peu la première idée, ce qu'on appelle les amis et les amis d'amis.
Ouais.
Mais l'autre chose aussi, c'est d'apporter un espèce de soutien à tous les moments et les événements collectifs, mm-hmm. que ce soit directement lié à un moment de lutte. C'est pour ça qu'on parle de cantine de lutte. Mm-hmm. Voilà, là où on se retrouve et qu'on discute ou qu'on s'organise ou qu'on mène une bataille particulière. Donc, par exemple, les différentes ZAD qui peuvent exister. Ça peut être aussi des événements particuliers. Voilà, donc ça, ce serait un peu la deuxième type de distribution. Et nous, ce sera en fonction des rencontres qu'on pourra
Alors,
apporter
est-ce,
notre aide.
Est-ce que ce débouché, finalement, il risque pas d'enfermer le projet dans un cercle d'amis, d'amis, de amis, zadis listes, des choses comme ça, et que finalement il y a aussi tout un public, je pense à des mouvements de solidaires, d'associations, ouais. Je pense à des mouvements comme Alternativa, plein de choses comme ça, qui défendent sans doute, j'ai l'impression, pas mal, enfin vous partagez avec eux des valeurs, mais est-ce que aussi c'est pas des gens qui pourraient aussi goûter vos pâtes dans leurs événements et que ça ait du sens de travailler avec eux?
J'allais finir, le troisième truc c'est qu'il y aura sans doute, il y aura une part de vente, mais déjà c'est juste pour payer l'électricité, l'eau, la question des charges, ouais. Et ensuite en fonction des rencontres qu'on fera, s'il mm-hmm. faut voilà, je disais, alimenter un réseau particulier qui est inscrit dans une, voilà, une logique particulière qui nous semble correspondre, enfin voilà, s'il mm-hmm. y a des attaches, ouais. Ça se fera. Mais aussi le truc c'est qu'effectivement il y en a pas mal d'entre nous qui travaillent déjà un peu à la conjuration des fourneaux. On a juste matériellement, on n'a pas vocation à produire 10 tonnes de pâtes par an, ouais. Pour l'instant, de manière tout à fait modeste, on s'est dit que la première année il faudrait qu'on arrive à 2 tonnes de pâtes par an.
2 tonnes c'est combien de paquets de pâtes? Pour avoir une vision un peu, parce que moi, 2 tonnes, ça me dit rien.
Ça peut être 4500 grammes.
D'accord, ok.
Je suis assez content de moi, je suis allé assez vite. Je n'allais pas venir celle-là.
Ouais, mais en plus, ça m'est venu.
8250 grammes, mais ouais. Tu vois, si c'est un truc collectif, on les vendra plutôt peut-être par truc de 500 kilos. Y a déjà des restaurants qui nous, enfin, des restaurants un peu comme la conjuration des fourneaux qui nous ont contactés, qui aimeraient en avoir.
Ça peut être des choses comme faites-le vous-même ou des structures un peu dans ce sens-là.
On leur a dit que s'ils voulaient des pâtes, on en aura. On aura à vendre, même si après là le gros moment c'est je disais donc 2 tonnes pour l'instant, 2 tonnes à peu près c'est une session de 1 jour et demi toutes les 2 semaines.
Voilà.
Après, l'autre chose qu'on envisage, en tout cas, l'anonymat, il n'est pas vraiment possible. L'autre chose qu'on envisage, c'est que s'il y a il y a des gens qui sont actuellement branchés par le projet, ils peuvent aussi venir produire leurs propres pâtes. Et pour l'instant, on a prévu mais ça, c'est en discussion avec les gens qu'on rencontrera, avec ceux avec lesquels on est déjà en lien, mais on a prévu une espèce de fonctionnement où la production de pâtes, d'abord, on constituera une espèce de stock pour la distribution de tous les lieux collectifs qu'on connaît. Ouais. Et puis à côté de ça, il y aura ce qu'on appelle le trésor de guerre, un espèce d'impôt révolutionnaire en quelque sorte qu'on ponctionnera à chaque production. Et ça sera pour les événements particuliers. Mm-hmm. Hein. Par exemple, si on parle de Rouen, lors de la mort de Rémi Fraisse, il y a des énergumènes qui se sont enquis d'aller occuper la place du palais de justice.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il aurait fallu que tout passe comme une lettre à la poste, mais des gens ont décidé qu'il fallait que ça continue un peu plus longtemps. Il y a des gens qui ont dormi 3 jours et qui se sont fait déloger finalement par les flics à 4 heures du matin. Bon, ben là, le sens, c'est d'aller piocher dans le trésor de guerre et d'amener 50 kilos ou 100 kilos de pâtes. Ouais. C'est plutôt ce genre de choses-là.
Après, est-ce que ces pâtes pourraient être vendues avec la monnaie locale de Rouen qui est en train de naître?
Je ne savais pas qu'il existait.
C'est un projet, je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils en sont. Hélène, tu es peut-être un peu au courant, toi.
Eh ben, vous pourrez venir les rencontrer le 6 juin au premier village normand d'économie collaborative qui aura lieu à Elbeuf toute la journée, le samedi.
Ça s'appelle Échangeons, et avec l'émission, on vous mettra le lien. Je sais qu'il y a aussi d'ailleurs un financement participatif. Il y a une page Facebook, on vous mettra tout ça.
Et la monnaie est en cours de mise en place.
Voilà. Nouvelle petite pause musicale, parce qu'en fait, j'ai envie de passer un morceau que, Paul, tu as choisi pour nous ce soir, parce qu'on aime bien que les invités nous fassent partager leur univers musical. Je ne sais pas si ça va exactement avec des pâtes, ça s'appelle « Chocolate Milk ». Louder than words. Action speaks louder than words. L'action pèse plus que les mots. C'est un peu ce que vous faites avec l'usine à pâte Paul, puisque un projet que vous aviez en tête depuis plusieurs années, qui maintenant sort de terre, le blé en train de pousser sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il n'y a plus, le local est prêt. Il ne manque plus que la machine. Et puis c'est parti.
Ouais, alors la machine, il y a deux choses dans l'élément technique, c'est qu'il y a la machine pour produire les pâtes. Voilà, sur Ulule, il y a une fiche technique, comment ça marche. Et sinon, il faut aussi un séchoir. Mm-hmm. Parce que ce qu'on a prévu de faire, c'est des pâtes sèches, raison pour laquelle elles peuvent se conserver. Et normalement, avec ça, initialement, on fait des pâtes fraîches. Et financièrement, c'est ce qu'il y a de plus lourd, le séchoir. Parce que si on veut, en gros, avoir des qualités de séchage optimales, pour avoir une conservation optimale, voilà, il faut un truc assez élaboré. Donc voilà, l'usine à pâtes, c'est un local, une machine et un séchoir.
Et du collectif.
Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, on est encore prisonnier de
la financement, question financière,
la question financière, de l'argent. Mais sinon, nous, à long terme, la question, c'est plutôt d'essayer de déserter l'économie que d'essayer de créer des espèces d'économies alternatives. Et là, ça dépend assez largement de ça, notre capacité à se réapproprier des moyens de produire par nous-mêmes, des réseaux où finalement, à aucun moment donné, on a un rapport au temps qui est un rapport économique. C'est-à-dire le temps, ce n'est pas de l'argent pour nous. Ouais. Et la seule raison pour laquelle ces projets peuvent tenir, c'est précisément parce que les gens se débrouillent pour pouvoir ne pas avoir ce rapport au temps-là, à ce temps-là. D'ailleurs, il y a plein de gens qui nous laissent soit des messages, qui nous disent que moi, je suis carré, éventuellement si vous avez besoin de quelqu'un, je vais travailler pour vous. Ouais. Et alors on est vraiment désolé, tous ceux qui sont intéressés par le projet peuvent nous accompagner un temps, mais en tout cas il y aura, vu que c'est pas une vraie usine, il y aura pas d'entretien d'embauche, il y aura pas de salaire.
D'accord, alors on revient tout à l'heure pour parce qu'il nous reste une bonne dizaine de minutes, mais on reviendra tout à l'heure pour continuer à décortiquer ce projet. Tu le disais Paul, le temps ce n'est pas que de l'argent. Le temps, Hélène, c'est aussi de la procrastination.
Bien joué.
Oh, la transition.
Et quand même, c'est un métier. Attention, voilà.
Alors, rien ne sert de courir.
Il faut partir à point.
Ouais. Or, qui c'est qui l'a dit?
Qui a dit ça?
C'est La Fontaine. Non.
Ouais.
Oui, c'était la voix de Monsieur Salaud.
Effectivement, Jean de La Fontaine qui a écrit en fait Le Lièvre et la Tortue.
Oui.
Alors j'avais envie de vous lire Le Lièvre et la Tortue, qui parle un peu de procrastination.
D'accord.
Comme entrée en matière à ma petite chronique. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindriez point sitôt que moi ce but. Sitôt ? Êtes-vous sage ? Répartit l'animal léger. Ma commère, il faut vous purger avec 4 grains dès les bords. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'était pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre, qui n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait, lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes, et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter. D'où vient le vent ? Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Celui-ci méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire. Croit qu'il a... c'est dur de dire. de lire du La Fontaine, franchement c'est chaud. J'ai pas l'habitude, va falloir que je m'entraîne plus souvent. Alors, j'en étais où ? Tient la gageure à peu de gloire. Croit qu'il va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à tout autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au but de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Voilà.
Donc j'en conclus que le procrastinateur est un peu... Un peu lièvre, quoi.
Un tout peu, sur ce coup-là, effectivement. Mais alors justement, pour ou contre la procrastination ?
Ah.
Ah. La procrastination, comme l'a dit très bien Emilia et Stéphane Emmanuel, cette propension à reporter plus tard les tâches importantes et urgentes plutôt qu'à pour se focaliser sur des tâches superflues. Mmh. Je suis sûre effectivement que vous avez tous vécu cette situation où vous aviez à faire une super présentation hyper importante à réaliser pour demain, alors que votre carrière était en jeu. Ouais, mais ok, avant, je vais faire un petit tour sur Twitter juste pour voir. Donc, Emilien, lui, c'est allé faire son jardin. Voilà, c'est
et
chacun.
D'autres tweets.
Voilà. Effectivement, Stéphane Emmanuel parlait de Proust, qui en parlait lui-même, qui avait reporté de nombreuses choses très importantes. Alors, évidemment, j'ai quelques citations, parce que je case toujours des citations dans ton livre.
Une chronique suivant... d'Hélène ne serait pas une chronique d'Hélène sans citation.
Sans citation. En suivant le chemin qui s'appelle « Plus tard », nous arrivons sur la place qui s'appelle « Jamais ». Alors, il y a quelqu'un qui a dit que c'était Sénèque, il y en a qui disent que c'est un proverbe d'un auteur inconnu, donc je ne peux pas confirmer.
D'accord.
Voilà. Ne pas faire son boulot prend souvent plus de temps que de le faire. Là aussi. Ouais. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième moment, c'est maintenant. Voilà. Alors, quand on cherche procrastination sur Internet, eh ben, on trouve plein de définitions, plein de choses, mais surtout une quantité phénoménale sur YouTube de méthodes pour arrêter. À la manière des belles méthodes pour maigrir ou d'arrêter de fumer, toutes les plus miraculeuses les unes que les autres. Des vidéos, des articles pour comprendre comment éviter de stresser et de subir les symptômes de ce mal qui ronge nos consciences. On parle de symptômes. Bah ouais, non, mais tu as cité plein de choses pour éviter la procrastination. On parle de symptômes, quasiment de maladie de l'indécision, un signe d'un manque profond de confiance en soi. Et Stéphane Emmanuel en a bien parlé, a bien dressé les lignes et les contours de ce que c'était, que c'est le perfectionnisme ou la peur de l'échec est un frein au passage à l'acte, etc., etc., etc. Ça procure un stress, un mélange de frustration, d'angoisse, de rumination et de sentiment de mieux contrôler son emploi du temps. Enfin bref, plein de choses. Il faudrait lutter contre, trouver les remèdes. Alors moi, je pose vraiment, je pose la question. Parce que moi, en tant que membre d'élite, ultra perfectionné de la procrastination, une spécialiste des listes de choses à faire en oubliant de consulter cette liste, je souhaite réhabiliter la procrastination. Je dis oui à la procrastination. Oscar Wilde, attention, nouvelle citation, ne disait-il pas « je ne remets jamais au lendemain » ce que je puis faire le surlendemain.
Ah, c'est bien.
Belle variante aussi.
Voilà. Il y a aussi Monterland qui disait « Il faut toujours tout remettre au lendemain. Les trois quarts des choses s'arrangent d'elles-mêmes. Mmh. » Alors, en effet, je pense que la procrastination révèle aussi la relativité profonde des choses. Et cela, c'est finalement très sain pour la santé mentale et nerveuse. Ça permet de voir la vie du bon côté, de se rendre compte que finalement, c'était pas si urgent que ça. N'empêche.
Le monde ne s'est pas écroulé.
C'est ça, exactement. On raconte en plus que les adeptes de la procrastination sont souvent organisés à l'intérieur de leur procrastination. Ils grouillent d'idées et ont des projets plein la tête. Alors moi, pour moi, c'est vrai, hein, ça marche complètement. Ainsi, la procrastination peut être intelligente. Alors Emilien en parlait, mais d'une autre manière. Mais oui. Parce que vous avez un travail super important à faire. Vous n'arrivez pas à le faire et vous n'arrivez pas à vous lancer. Vous bloquez, vous allez prendre un café, faire votre jardin, etc. Alors, il y a deux solutions. Soit de manière très conventionnelle et un peu triste, je trouve, vous anticipez, vous travaillez dessus dès les premiers jours, vous finissez dans les temps et vous êtes heureux, tout va bien. Ou alors, vous procrastinez. Vous attendez le dernier moment pour agir et dans l'urgence, vous finissez ce travail. OK. Mais entre-temps, vous avez rempli vos moments de procrastination avec plein de choses. Donc, et de choses que vous ne faites pas habituellement. Tiens, je referais bien les carreaux, un gâteau, ma déclaration d'impôt, du tri dans mes papiers, le bureau qu'on nettoie, etc.
Moi, je procrastine jamais en faisant mes carreaux. Hein. Ça, c'est...
Tout est bon, en fait.
Moi, j'ai jamais fait autant de ménage que pendant mes séances de partiel quand j'étais étudiante. C'est vraiment, mon appartement était nickel. Bref. Et donc, à la différence de la personne studieuse qui aura anticipé, prévu, fait les choses dans l'ordre avec en mettant beaucoup de temps dessus et tout, et ben, le procrastinateur, lui... aura réalisé un tas d'autres choses, en plus de la chose qu'il avait à faire dans l'urgence, qu'il aura fait dans l'urgence, de manière hyper efficace, finalement. Donc finalement, c'est super rentable d'être procrastinateur, parce qu'en fait, on fait deux fois plus de choses.
On va rejoindre ton clan, Hélène.
Voilà, en plus, la satisfaction d'avoir rempli une tâche dans l'urgence, ça vous procure pas une petite satisfaction, quand même, d'avoir réussi à faire une rédaction, une dissertation en une nuit. Ça, c'est quand même magnifique, quand même, d'être fier le lendemain d'avoir réussi à tenir les engagements.
Une dissertation de philo, voilà, les quelques dernières heures avant de...
Bon, je passe la mauvaise foi de l'angoisse et puis de la culpabilité de l'avoir fait en pleine nuit alors qu'on aurait pu dormir, mais bon, ça, c'est pas grave. Et la procrastination peut être aussi très créative. Et ça, Emilien, t'en parlait aussi un petit peu. On a une idée Et plutôt que de s'y arrêter, de se jeter dessus et d'y travailler, et puis voilà, et puis de provoquer un accouchement prématuré, eh ben on la laisse vagabonder, on la laisse mûrir, on la laisse évoluer. Et on continue à vaquer à ses occupations, mais l'idée est là, tapie dans un coin de son cerveau, et elle attend son heure, elle va s'enrichir de petits détails, de la vie quotidienne, de rencontres, de conversations, de déambulations. Et à un moment donné, ça va sortir. Bref, c'est une occasion. Ouais, c'est bien la conclusion.
Ouais, sur la chute,
sur la
crème,
super, ouais. Sur la chute, ça crame quoi. Bref, procrastiner est une occasion de faire mûrir ses idées et ses projets.
Ah, merci, merci Hélène. Et vive la procrastination. Paul lève la main, veut prendre la parole.
Du coup, non, je voudrais essayer de tenter de dire un truc sur la procrastination, puis on me le demande en fait. Non, en fait, on a l'impression quand même que la procrastination, c'est un peu le mal de l'individu moderne, seul et isolé. Parce qu'en gros, c'est des choses qu'on a du mal à faire, c'est une impuissance de faire. Et souvent, c'est des choses qu'on est censé faire tout seul, ou alors qui correspondent à des contraintes. Donc peut-être que l'une des solutions, et du coup, ça renvoie un peu à ce à quoi on est confronté nous, c'est de ne pas faire les choses seul, être emporté dans une espèce de force collective et être confronté à des choses qui renvoient à ce qu'on a à faire. Il y a une puissance de faire, mais qui est plutôt liée à des choses qu'on désire réellement faire. Et par exemple, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Et du coup, je fais une petite transition. Là, j'ai pu venir tout seul parce que, en l'occurrence, je leur passe un bonjour. Je sais qu'il y a des amis du projet qui sont en train de servir des croque-monsieur à la conjuration des fourneaux et je leur
en
adresse
plus,
une petite
manger,
dédicace puisqu'ils y sont. Mais voilà, l'une des manières d'échapper à l'ennui et à la contrainte de la discipline obligatoire, c'est d'être emporté par des projets joyeux
des
et qui renforcent la puissance qu'on a sur nos existences et qu'évidemment ça suppose de réussir à trouver des chemins qui nous permettent de déserter le triste avenir que nous promet l'économie marchande, comme dit notre petite carte.
Alors Paul, quand est-ce qu'on pourra ensemble déguster la première assiette de pâtes autonomes de l'usine à pâtes?
Déjà vendredi 5 juin à 19h,
ouais.
Les pâtes qui seront servies à la conjuration des fourneaux seront faites par une petite machine qu'on nous a prêtée,
ouais.
Et la semoule qui servira provient de la ZAD. Là, on vient d'aller passer une semaine où on a fait différents ajustements sur, c'est très compliqué, le moulin, la bluterie, le spoons. En gros, c'est pour broyer et séparer dans le grain ce qui va faire le son, la farine et la semoule. Donc là, on a une quinzaine de kilos de semoule et les pâtes qui seront servies donc vendredi 5 juin à 19h à la conjuration des fourneaux pour la soirée de présentation du projet seront donc les premières pâtes autonomes.
Waouh! Donc, compte à rebours, nous sommes aujourd'hui le 28 J-8, 9, un truc comme ça. Ouais, oui, moins 8, je pense.
Disons 8.
Ouais, voilà.
Et ensuite, courant septembre pour...
Pour là, ouais. Pour...
Et évidemment que, évidemment que la conjuration des fourneaux servira des pâtes qui viendront de là, et évidemment qu'il y aura différents endroits où on pourra en trouver...
Ok. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Que dire de plus? L'usine à pâtes, Ulule... .com/l'usine à pâtes pour pouvoir venir vous soutenir et mettre sa pâte à l'édifice de votre projet collectif porteur de sens et d'éthique. Je pense qu'on l'a bien tous compris. Merci Paul d'avoir été là pour ce temps libre avec nous. Merci Hélène, merci Emilien pour
merci
vos chroniques. Stéphane Emmanuel aussi, merci beaucoup à toi. Je vous souhaite une très belle soirée sur HDR.